Bonjour chers auditeurs, merci d'être à l'écoute du podcast des Chroniques de la Vieille Europe. Voici juste un petit message pour vous prévenir qu'après l'émission sur Pierre Grébari avec notre invité Anne-Martin Conrad, vous pourrez écouter un extrait de l'entretien de Pierre Grébari dans l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie du 30 novembre 1978. Pierre Grébari nous parle de ses opinions politiques. Il vous est possible d'avoir l'intégralité de cet entretien passionnant sur le site de l'INA pour la somme de 2,99 euros. Donc juste après les quelques notes de notre générique de fin, voici un petit cadeau, je dirais, de rentrée. Vous retrouverez la voix magique de Pierre Grébari. Bonne écoute avec Anne-Martin Conrad et merci de votre fidélité. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Nous continuons nos émissions d'été. Alors, cette émission va être enregistrée, donc vous ne pourrez pas téléphoner en direct. Après avoir vu au mois de juillet avec François Bousquet, l'écrivain Jean-Claude Albert Veil, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Martin Conrad, qui vient de publier dans l'excellente collection « Qui suis-je ?» un Pierre Grébari avec Jacques Marlaud. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour.
Bonjour. Nous allons avoir dans quelques minutes, mais il est déjà en retard, Lucien Valdès qui va venir aussi parler de votre livre. Alors, Anne-Martin Conrad, vous êtes une véritable spécialiste de Pierre Grébari, car avant d'écrire ce « Qui suis-je ?», vous aviez déjà dirigé le dossier H de Grébari aux éditions L'Âge d'Homme. D'où vous vient cette passion pour Pierre Grébari ?
Eh bien, écoutez, c'est un conte de fées, en fait. Hein. C'est tombé du ciel parce que je l'ai rencontré par les hasards de la vie. J'étais libraire à l'époque, à la fin des années 60. Et lui, qui était amateur de livres, évidemment, c'était pas très extraordinaire de le rencontrer dans une librairie, y compris la mienne. Et voilà, il venait faire un petit tour, nous dire bonjour, regarder les nouveautés, et en particulier les Lucky Luke. Quand un Lucky Luke paraissait, il l'emportait dans un coin de la librairie et on entendait son rire légendaire. Et c'était un régal de l'écouter, d'être, de l'entendre, enfin d'être ami avec lui. À l'époque, il avait beaucoup de difficultés. C'était le moment où il n'avait plus d'éditeur entre la période de la table ronde et après celle de l'âge d'homme. Il y a eu quelques années très très difficiles pour lui, où il écrivait dans le vide en quelque sorte, mais il ne s'est jamais découragé de le faire de toute façon, puisque au bout de la route, on a quand même une quarantaine d'ouvrages. Et donc, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Et voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir rencontré, très contente d'avoir servi sa mémoire depuis 20 ans. Et puis, j'espère qu'il y aura une relève et qu'il trouvera un public nombreux et très, très réjoui de le lire.
Alors, on va faire un peu connaissance avec Pierre Grébari, même si je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent très bien. Pierre Grébari, il est parisien, il est né à Paris en 1925. Mm-hmm. Quel va être son parcours avant de tomber dans l'écriture ? Il aura une vie qui est bien remplie avant de commencer à publier.
À publier, oui, mais à écrire, non, parce qu'il dit, bon, c'est peut-être un petit peu légendaire, comme c'est le cas pour beaucoup d'écrivains vraiment engagés dans la littérature comme lui, je dis bien dans la littérature, hein, pas engagé tout court, il dit qu'il a commencé à raconter des histoires sur du papier à 7 ans, enfin dès qu'il savait écrire, et effectivement, il a toujours écrit. Et il a eu une enfance et une adolescence extrêmement troublées, à la fois à cause de sa famille et en même temps à cause des événements. Hein, comme tous les gens de sa génération, il avait 15 ans.
Quand ses parents sont morts, c'est ça, pendant la...
Sa mère est morte en 1941 et son père est mort à la fin de la guerre sous un bombardement anglo-américain sur les bords de la Loire, donc il a été orphelin alors qu'il était adolescent et qu'il faisait des études brillantes, mais qui se sont arrêtées là parce que il a dû travailler. Bon, en même temps, c'était la fin de la guerre, la libération, c'était une époque tout à fait troublée, qu'il a été aussi pour lui. Donc l'écriture a été sans doute à la fois son refuge, son projet unique, et à partir de là, il a décidé qu'il ne ferait que ça, mais évidemment, il fallait bien vivre. Donc il a fait des tas de petits boulots, c'est très vrai, il a fait tous ses boulots, ouvrier agricole, clerc de notaire, pianiste de bal le samedi soir. etc., pion dans un lycée.
Il a même
dans
été syndicaliste à la CGT.
Ça, c'était pas un boulot. En fait, ça, c'était tout au début, quand il s'est retrouvé vraiment avec son jeune frère orphelin. Mais après, il a dû travailler régulièrement. Et là encore, c'était des petits boulots, genre travail de bureau. Alors, syndicaliste, ça, c'était dans une grande entreprise. À la Mobil Oil. Et là, l'anecdote, c'est que il était effectivement, à la fin de la guerre aussi, comme beaucoup de gens de sa génération, il s'est engagé au Parti communiste. Et il était syndicaliste par la nature des choses, mais au lieu d'en faire un militantisme, il a tourné déjà de travers parce que comme il était cultivé, on l'a chargé de la bibliothèque. Et au lieu de conseiller les livres soviétiques qui étaient de bon ton de faire lire à la classe ouvrière, lui faisait lire les grands écrivains russes et puis d'autres écrivains aussi. Et c'était vraiment pas bien vu. Donc sa carrière de syndicaliste a tourné court, mais ça lui a servi à une chose très utile, c'est qu'il a pris des cours du soir de russe. Il a pratiqué ce qui est très à la mode maintenant, qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que des événements difficiles qu'il a dû affronter ou des situations difficiles qu'il a dû affronter, surtout matériellement, il en a fait quelque chose. Et puis au bout de la route, ça fait une œuvre.
Alors, en plus d'être écrivain, il sera un lecteur et même un critique. Il a une idée bien précise de la littérature. Quelles sont ses grandes influences dans la littérature?
Je pense qu'il est entré dans la littérature comme on entre dans la vie, comme on entre dans une forêt. Et puis, il a exploré petit à petit. Il s'en est imprégné totalement, à la fois, effectivement, comme vous dites, comme lecteur et puis comme écrivain. Et puis, il a nourri une œuvre, et cette œuvre et la littérature en général l'ont nourri aussi complètement. Il était vraiment engagé dans sa vie d'écrivain, comme on est engagé dans un monastère.
Il rentre en religion, ça lui aurait fait horreur, on dit ça, mais...
Non, je ne crois pas que ça lui aurait fait horreur, parce que, vous voyez, il était philosophiquement athée, oui, ça c'est vrai. Mais il n'était pas du tout anticlérical. Il avait même des amis qui étaient tout à très croyants et très engagés dans cette vie-là. Et puis, il avait même des amis prêtres. Et ça se passait très bien. Et les conversations étaient toujours de bon ton et avec beaucoup d'humour. Non, il était profondément athée, mais pas du tout... anti-religieux, et tout le long de son œuvre, il explique qu'il comprend très bien que les hommes aient besoin de se créer des religions, des mythes, des histoires. Lui, il le voit avec des histoires qu'on invente et des mythes qu'on régénère constamment.
Alors, par rapport à ses contemporains, et les écrivains qui naissent après-guerre, Pierre Gripari se méfie énormément du style. Il préfère être un raconteur d'histoire. Il dira lui-même qu'il ne travaille pas à la phrase. Il considère qu'il faut être dans le vrai, savoir traduire ses pulsions. Ce qui est assez nouveau par rapport aux écrivains contemporains qu'on a à son moment-là.
Ah oui, ça, c'était pas du tout le nouveau roman. Son affaire, non, c'était pas du tout ça. C'était le récit, le conte, l'histoire qu'on raconte. Et pour lui, ce qui était important, c'était le rythme. Alors je pense que quand il parce qu'il imagine des personnages, des situations, des histoires, il a une imagination absolument débordante. Et je pense que les histoires étaient dans sa tête, même si c'était plus ou moins conscient, avant d'être écrites sur le papier. Il ne se mettait pas à sa table tous les matins en disant « qu'est-ce que je vais raconter ?» Quand il commençait à écrire, en général... Il avait le canevas de l'histoire en tête et il fallait que ça se fasse à un rythme. Pour lui, c'est très important, le rythme. Et d'ailleurs, on le ressent très bien dans son écriture. C'est ce qui fait aussi que ses récits courts sont particulièrement réussis. Et en plus, il utilise le dialogue comme élément de récit. ce qui n'est pas souvent, c'est pas une technique littéraire très, très usitée. En fait, en général, on fait des dialogues qui immobilisent la situation, et puis après on explique ce qui va se passer, ou le temps qui fait, ou le paysage qui entoure. Lui, avec lui, c'est le dialogue qui crée l'histoire et qui la fait se dérouler à toute vitesse, en quelque sorte. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il avait une formation musicale assez poussé, il avait appris à jouer du piano comme tous les enfants bien élevés de sa génération, mais il aimait beaucoup la musique.
Il a fait des balles, il a eu des petits boulots dans les balles.
Oui, il était pianiste de balles, mais ça c'était plutôt une plaisanterie, vous savez, c'est pas très compliqué du point de vue pianistique, il n'y a pas beaucoup d'exigences dans ce domaine-là, encore qu'à l'époque, les gens dansaient sur de la musique vivante, maintenant c'est très rarement le cas, mais à cette époque-là, il fallait vraiment des musiciens qui soient d'humeur joyeuse et à qui on offrait à boire, etc. Enfin, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Et d'ailleurs, après, évidemment, il a fait ça très rapidement, mais je me souviens de soirées où, quand il y avait un piano dans une maison, il nous jouait son répertoire. Alors, il nous jouait des transcriptions bien à lui de Tristan et Isolde ou de la tétralogie, mais aussi Stern von Rio ou des choses qui étaient des musiques de danse, des tangos, des choses comme ça qui étaient à la mode à l'époque où il faisait ça. Mais ça avait été assez rapidement bouclé, cette carrière-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le rythme, c'était lié aussi à la musique qui était inscrite en lui, quoi, et qui était très vivante pour lui parce que il chantait beaucoup, Gripari. Il s'exprimait avec beaucoup de... Il était assez extraverti, il riait beaucoup. Il racontait aussi dans la vie beaucoup. Il faisait pas de commentaires, il était pas du tout didactique, quoiqu'il avait une culture absolument immense. Mais quand il parlait d'une musique, il finissait toujours par chanter. Et comme il aimait beaucoup l'opéra, parce que l'opéra raconte des histoires au sens propre du terme, bon, Chopin, dans une ballade, ne raconte pas d'histoire, il crée un monde, tandis qu'à l'opéra, on raconte des histoires, et lui, il aimait beaucoup l'opéra à cause de ça, et il connaissait beaucoup d'air.
Je ne sais plus dans quel entretien il dit qu'il aurait aimé écrire des opéras, il avait déjà des livrets, il voulait...
Oui, il a hésité entre écrire de la musique et écrire du texte, puis il avait un ami très proche, il en parle dans Pierrot la Lune, qui est un roman à la fois fantastique et autobiographique. Il avait un ami qui a été tué d'ailleurs à la fin de la guerre, dans les événements de la Libération, qui était jeune comme lui, qui était de sa génération, et qui faisait des études justement pour être compositeur. Donc il était tout à fait porté à ce genre de choses. Et à la fin de sa vie, il prenait des cours d'harmonie et de contrepoint parce que il voulait mettre en musique ses propres poèmes. Donc la musique l'a toujours accompagné et il n'en parle pas tellement d'une manière précise dans son œuvre. Enfin, il en parle bien sûr et dans ses critiques aussi. Mais on sent que beaucoup de nouvelles ou de contes sont écrites avec de la musique ou du rythme en tête. Et dernière chose, ça lui passait au travers du corps, parce que quand il marchait dans la rue, on avait l'impression qu'il dansait. Il avait une allure tout à fait particulière. Alors évidemment, il se racontait des histoires quand il marchait. Je pense qu'il a élaboré pas mal de ses nouvelles et de ses contes en déambulant dans Paris. C'était un grand promeneur, un grand piéton de Paris. Et en même temps, bah, il chantait ou voilà. Tout va vers le rythme, l'élan, plus que vers le côté point, qu'a souvent la littérature française. Bon, évidemment, on voit pas Saint-Simon dans ce qui est un modèle pour la littérature française. On le voit pas du tout dans cette situation. Et je crois que c'est un des traits de Gripari, justement, qui a des origines aussi grecques, comme vous savez, et qui est français, mais surtout bon européen, on peut le dire, qui est imprégné de toute la littérature et de toute la mythologie européenne.
Alors, son premier roman, qui va être Pierrot la Lune, va être publié en 63 à la Table Ronde.
Voilà.
Et ses débuts vont être assez difficiles. Il passe un peu inaperçu, c'est pas...
Oui, tout simplement. Mais vous savez, dans les carrières littéraires et dans la réussite des vies en général, hein, pas seulement dans la littérature et dans l'art, Il y a des hasards aussi. Il se trouve qu'il avait sa pièce Lieutenant-Tenant avait été jouée en 1962. Et à cause d'un coup de cœur de Jean-Jacques Gauthier, qui était un critique théâtral très très célèbre à l'époque, qui chroniquait dans Le Figaro, Jean-Jacques Gauthier donc avait beaucoup aimé cette pièce, en avait parlé avec beaucoup de compliments. Là-dessus, Michel Déon était venu la voir. Michel Déon était persona grata aux éditions de la Table Ronde avec Roland Laudenbach, et il s'est lié d'amitié autour de ça avec Pierre Gripari. Il l'a introduit à la Table Ronde. Mais la Table Ronde, qui était une maison d'édition tout à fait respectable et qui a une histoire très intéressante, plutôt bon du côté de Blondin, de gens comme ça. Ouais. Et puis aussi du côté de l'Algérie française. Enfin, c'était en plein à l'époque de la fin de la guerre d'Algérie. Et la Table Ronde se voulait être l'éditeur des gens qui étaient pour l'Algérie française. Donc Gripari est tombé là-dedans. Alors, il avait renoncé au communisme. À cette époque-là, il avait vu clair, disait-il, et avec juste raison. Et du coup, il est tombé à l'autre extrême, d'une certaine façon. Et par une espèce de malentendu. Alors, la Table Ronde l'a édité. Oui, c'est vrai, il y a eu un livre qui a été fabriqué, il y a eu un objet, mais il n'avait pas la diffusion, il n'avait pas la clientèle pour ce genre de choses. En plus, bon, vous le savez aussi, Gripari était homosexuel. Dans Pierre ou la Lune, il en parle d'une manière tout à fait émouvante, qui n'est pas du tout ni revendicatrice, ni pleurnicharde, ni tout ça, mais comme de quelque chose qui est assez difficile à vivre à la fois de l'intérieur et en même temps socialement, parce qu'à l'époque, c'est quand même vrai. Et il en parle très simplement et très sincèrement. Là aussi, c'était pas le moment. Je sais pas ce que ça ferait maintenant, mais à l'époque, c'était pas ça.
Surtout qu'à l'époque,
donc, c'est tombé un peu à plat.
Surtout à l'époque, les écrivains, ce qu'on a appelé les hussards, c'était des gens qui fréquentaient le monde, qui avaient de l'argent. Voilà. Gripari, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé à côté.
Oui,
il a eu des mi-temps,
il
représentait pas la droite un peu flamboyante
des
hussards.
Pas du tout, non. Non, pas du tout. Et en plus, je pense qu'il s'est trouvé dans une situation un peu d'asset par la force des choses et parce qu'il voulait écrire et ne faire que ça. Mais en même temps, il en avait le goût, je crois. Il était fait pour ça quand même, parce que c'était quelqu'un de très profond, de très authentique. Et voilà, il était doué pour la pauvreté, je pense.
Il y a Lucien Valdès qui vient de nous rejoindre.
Bonjour. Bonsoir, Lucien Valdès.
Alors, en 64, il va publier L'incroyable équipée de Phosphornolock. Alors, je ne dis pas le titre en entier parce qu'il est tellement long.
Oui.
Ça, c'est les titres des Gripari sont incroyables pour ça.
Oui.
Qui est pour moi un de ses chefs-d'œuvre. Alors, ce livre va aussi passer inaperçu et on va revenir sur l'édition jeunesse parce que en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'il était édité, qu'il avait été édité aussi dans une collection jeunesse. Pierre Gripari va être considéré comme un auteur pour la jeunesse, en tout cas ses plus gros succès vont être des livres pour la jeunesse. L'a-t-il voulu, ou plutôt Pierre Gripari croit-il qu'il y a une littérature pour enfants?
Non, pas du tout. Il aimait la littérature sous toutes ses formes et il s'est exercé à tous les arts littéraires, à toutes les formes justement. Alors, il a écrit pour le théâtre. Je vous ai dit, Lieutenant-Tenant a été joué en 1962. Il avait déjà plusieurs projets de pièces, mais celle-là a été jouée. Il a écrit ce roman Pierrot la Lune. Et en même temps, il écrivait déjà des nouvelles. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait étudié le russe à l'école du soir de la CGT ou du parti. Enfin, je ne sais pas exactement, mais il étudiait le russe très sérieusement. Il aimait beaucoup cette langue. Et du coup, il a rencontré des écrivains. Les écrivains russes sont des conteurs. Et en explorant cette littérature, il est tombé sur Afanassiev, le Grimm des Russes. Et ça l'a tout à fait intéressé. Et du coup, il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais écrire des contes pour enfants. Donc, il a repris des vieux thèmes, il les a aménagés. Il était un grand amoureux aussi de Marcel Aimé. Et Marcel Aimé
aussi. Il est souvent
aussi
comparé à Marcel Aimé.
Oui. Il partage avec Marcel Aimé le fait que dans les contes pour enfants, d'ailleurs, c'est pareil dans les contes pour adultes aussi, il sait très bien mêler des choses qui sont des situations ou des sentiments des personnages éternels et des situations très contemporaines. Ce qui fait que les enfants, ou même les adultes qui sont pas forcément des gens qui cherchent, enfin des gens qui cherchent de la, du divertissement dans la littérature, se trouvent très à l'aise dans ce qu'il écrit. Et les enfants retrouvent leur monde habituel. Par exemple, dans La Fée du Robinet, on parle d'une déesse des sources, mais en même temps, il y a un robinet qui coule dans un appartement, dans une HLM, il y a des ingénieurs qui construisent, etc. Vous voyez, il y a toujours ces deux éléments-là. Et donc, vous me demandiez s'il avait écrit volontairement pour les enfants. Donc, ça l'a intéressé d'explorer ça et de s'en faire une contrainte même. Alors, il a écrit des contes. Il les a essayés. L'histoire des contes de la Rue Broca est très vraie. Il y avait bien l'épicerie buvette de Papa Saïd de Rue Broca, tout à fait. Et avec les enfants, Nadia et Bachir, à qui il racontait, il lisait les contes et les enfants réagissaient, ça l'intéressait de voir dans quel sens. Donc, il a bien vu qu'il fallait que ce qui faisait rire, c'était ce qui faisait peur en même temps, etc., et qu'il fallait des émotions fortes et des personnages effrayants comme les sorcières, mais en même temps bénéfiques, etc. Donc, il s'est exercé, quoi, au sens propre du terme. Et c'est comme ça qu'il a publié des contes pour enfants. Alors, même histoire avec la table ronde, puisque les contes de la Rue Broca ont été publiés à la table ronde d'abord, mais ça, alors, sans aucun écho, parce que, en plus, c'était un volume de la collection Vermillon, sans illustration.
Oui.
C'est comme.
Il fallait vraiment savoir.
Ouais. Cette maison d'édition qui.
Cette maison d'édition n'était pas du tout faite pour ça. Mais à l'époque, vous savez, la littérature de jeunesse n'était pas encore l'industrie qu'elle est devenue. Parce que maintenant, c'est une industrie. Et je pense que Pierre Gripari, bon, après, il a été pris en main par Grasset Jeunesse, qui était un excellent éditeur pour la jeunesse et qui a publié des choses très intéressantes, même en dehors de Gripari. Mais je pense que maintenant, on cantonne finalement les enfants dans la littérature de jeunesse au lieu de leur faire lire Alexandre Dumas ou Robinson Crusoe, qui ne sont pas des œuvres spécialement pour les enfants, mais que les enfants peuvent lire à leur niveau. Alors, quant à Phosphornologue, bon, je pense que là, il faut que ce soit des adolescents quand même qui le lisent. Après tout, c'est une façon de montrer sur la carte les continents aux enfants, puisque le roman raconte le fait que l'Amérique n'existe pas. On s'arrête aux Antilles, après il y a un gouffre et l'Amérique n'existe pas. Donc ça peut amuser les enfants pour leur faire étudier la géographie.
Oui, parce que contrairement aux auteurs anglo-saxons, son œuvre, elle est remplie de mondes parallèles, imaginaires, c'est très farfelu, c'est incroyable, ouais. Son monde. Son monde, il paraît réel par rapport à un Lewis Carroll ou un Tolkien. C'est-à-dire que ces mondes parallèles, ils sont dans la réalité.
C'est-à-dire que la première lecture est tout à fait, justement, on a l'impression d'être dans un monde imaginaire, etc. Et fantastique. Et puis, donc on prend même des paradoxes en pleine figure. Quelquefois, on se dit quand même, il exagère dans ce qu'on peut appeler ses provocations, par exemple. Et puis après, quand on y réfléchit, on se dit, non, c'est lui qui a raison. Et il n'y a pas que moi qui le ressens comme ça. Hein. Je suis mal placée pour en parler, puisque vous savez que je suis une inconditionnelle de Pierre Gripari, de toutes les façons, de l'homme et de l'œuvre. Mais je crois que beaucoup de gens ressentent ça, et ils se sentent saisis et emportés, justement, par ces livres, hein, à cause de ça. Il sait très bien, finalement, emporter et manipuler son lecteur. Mais il le fait avec beaucoup de loyauté et de sincérité. Et les enfants, justement, sont très sensibles à cette sincérité. Eux, les enfants, ça ne les gêne pas du tout qu'il y ait du vraisemblable et de l'invraisemblable. Ça marche de toute façon, parce qu'ils sentent que Gripari leur raconte quelque chose et, comme on peut dire, leur donne des leçons de morale, mais à travers des mondes qui les fascinent et où ils auraient envie de se trouver.
Et ce qui est fabuleux dans son écriture, c'est qu'il ne va pas se rabaisser à avoir un style plus simple pour les enfants. Il garde son style, que ce soit ses livres pour adultes ou enfants, c'est le même style.
Bien sûr. Il ne fait pas du tout de digression dans les œuvres pour enfants. Là, le système dont je parlais tout à l'heure de récits qui avancent avec les dialogues marche à plein. Donc ça va très vite et les événements se succèdent très rapidement. Mais il n'y a aucune concession sur le langage, par exemple. Les enfants sont contraints d'apprendre le mot difficile qui se trouvera toutes les trois lignes. Et parce qu'ils se répètent les comptes, ils finissent par l'enregistrer, et voilà.
En préparant l'émission, vous nous disiez que ces éditeurs voulaient qu'ils simplifient ces romans pour pouvoir les traduire ensuite à l'étranger plus facilement.
Il est arrivé que des gens, vous savez que les traductions, c'est l'objet d'un commerce important avec des agents, des choses toutes qui n'ont rien à voir avec la littérature elle-même. Particulièrement la traduction, parce que c'est ça qui rapporte le plus finalement. Beaucoup d'auteurs vivent mieux des droits de traduction que des droits d'auteur eux-mêmes sur les ventes. Donc là, c'est du sérieux. On s'amuse plus. Il est plus question de faire des fantaisies littéraires. Et on lui a demandé, une fois ou l'autre, de réécrire ses contes en langage basique pour que ça soit plus facile à vendre à l'étranger. Alors là, il a levé les bras au ciel et il a refusé absolument. Voilà. De même que, mais ça, il n'y avait jamais aucune concession sur des coupures, sur des arrangements, sur quelque arrangement que ce soit.
Alors, il va se faire quasiment virer de la table ronde, c'est-à-dire que.
Oui, mais en même, le mot malentendu est tout à fait bienvenu, parce que la table ronde n'aurait pas dû l'éditer sorte. Ah, d'un autre côté, on est content que les livres aient existé. Est-ce qu'il ne se serait pas découragé si la table ronde, s'il n'y avait pas eu d'autres éditeurs? Bon, enfin, c'est un fait. Je me souviens très bien de cette période. Il est arrivé dans notre librairie en disant, j'ai plus d'éditeur. Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que, bon, il vivait pour la niche et la pâtée, comme il disait, d'un petit travail. Et il n'attendait pas du tout de gagner de l'argent avec ses livres, mais évidemment, il voulait être édité. Ça, c'est.
Alors, il va avoir une longue traversée du désert. Je crois qu'il va voir plus du. Il raconte qu'il a été voir plus de 17 éditeurs qui ont tous le refusé. Et en 1974, il va faire une rencontre importante qui va peut-être lui changer son œuvre littéraire. Il va rencontrer Vladimir Dmitrievitch, qui est l'éditeur de L'Âge d'Homme, qui lui donne une carte blanche totale.
Oui, c'est
pour ça.
C'est pour ça que je dis que la vie est faite de ce genre de miracles, à la fois qui passent à portée, et on sait en profiter ou pas. Enfin, on saisit les occasions ou pas. Alors, avec Vladimir Dmitrievitch, d'abord, Vladimir Dmitrievitch, comme vous, avait été séduit par Phosphor Nolok. Et quand il a appris par je sais pas exactement comment, mais il a appris par hasard que Gripari était sans éditeur. Il s'est précipité, c'est lui qui l'a sollicité même. Et il a édité la poésie, le théâtre, les nouvelles, tout. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui peuvent se vanter d'avoir du théâtre et de la poésie édité. Et j'insiste sur une chose, c'est que le théâtre de Gripari est un théâtre de texte. Donc les dramaturges actuels, ou quand on va au théâtre maintenant, on ne voit pas ce qui vous resterait dans les mains si on avait seulement le texte, puisque tout l'accent est mis sur le spectacle, sur même le scandale au spectacle, puisque là, je crois que dernièrement, on est devant une situation où l'actrice ne peut pas faire beaucoup de représentations parce qu'elle verse son sang sur la scène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est au Festival d'Avignon. Donc ça limite les possibilités de représentation. Enfin bon, on atteint ça ne peut pas s'écrire, ça peut se raconter, mais ça ne peut pas s'écrire. Alors que Corneille, Racine et des gens comme ça, évidemment, on les lit.
Texte.
Et Gripari, c'est la même chose. Enfin, je ne vais pas le comparer à Corneille et à Racine, ce n'est pas le même style de théâtre. Mais c'est normal. Dimitri a eu tout à fait raison d'éditer son théâtre, parce qu'on le lit avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, comme les romans, comme les nouvelles.
Alors, on va faire une légère petite pause, et puis on va revenir d'ici quelques minutes pour cette deuxième partie des Chroniques de la Vieille Europe. We'll be right back. Deuxième partie des chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Nous sommes toujours en compagnie de d'Anne-Martin Conrad, qui vient de publier dans la collection « Qui suis-je ? Un Pierre Gré-Paris » avec Jacques Marlot. Nous avons fait un peu le tour de la vie d'écrivain et de son style. Parlons maintenant de son engagement. Il est un Européen convaincu. Il ne supporte pas les idéologies et les religions, ce qui dans les années 60 et 70 est plutôt atypique. Anne-Martin Conrad, il faut dire que c'est quand même un provocateur né, Pierre Gré-Paris.
Bah écoutez, je crois que avec son expérience personnelle, il a toujours été, il s'est senti un peu exilé et tout à fait déclassé. Bon, pour des raisons qui sont pas forcément la faute de la société dans laquelle il a vécu, mais c'est vrai que les années d'après-guerre, ces années de jeunesse, donc, quand il était jeune homme, étaient assez lourdes, hein, entre les compagnons de route, les communistes, et bon, chose à laquelle il avait renoncé, comme je vous ai raconté assez rapidement, et la psychanalyse, l'ambiance était quand même assez, assez pesante. Donc, déjà, en renonçant au communisme, il l'a fait assez radicalement en écrivant des textes qui disaient bien ce qu'il voulait dire. Il s'est fait des ennemis. Au théâtre, n'en parlons pas, c'était impossible là dans le milieu du théâtre de se faire jouer si on n'était pas tout à fait engagé de ce côté-là. Donc il s'est heurté à la méchanceté, à la bêtise, aux idées reçues, au conformisme. Toutes les formes déplaisantes que peut avoir la société, avec toute l'hypocrisie du monde en plus. Et ça, lui qui était quelqu'un de fondamentalement vertueux, enfin j'emploie le mot vertueux, pas au sens où on l'entend peut-être maintenant, mais au sens de Corneille un peu, justement, il a été à la fois saisi d'étonnement et il a dû réagir devant ça. Donc il l'a fait. Au lieu de se dire, bon, il faut que je tourne l'obstacle et puis que je me taise un peu, que je sois un peu plus souple et puis ça va finir par marcher. Non, il s'est enferré, si vous voulez. Et du coup, bah, les choses se sont plutôt aggravées et puis il s'est installé dans ce rôle-là. Et évidemment, ça a créé de la provocation, c'est sûr.
Lucien Valdès.
Oui, avant d'aller plus en avant sur ses engagements, ses inspirations. Je voudrais aller sur le cœur de votre livre. Comment vous êtes partagé le travail avec Jacques Marlot pour le livre qui est paru dans la collection Qui suis-je, mais aux éditions Pardès.
Oui, voilà. J'ai oublié.
Qui a fait quoi comment vous êtes partagé le travail?
C'est Jacques Marlot qui a été sollicité par l'éditeur pour faire un livre dans la collection Qui suis-je sur Gré-Paris, parce que il avait travaillé sur Gré-Paris dans le cadre d'un travail universitaire qui a été publié d'ailleurs sous forme de livre qui s'appelle Le renouveau païen, où il avait étudié justement cet aspect des mythes dans les contes et tout ça, par rapport à Gré-Paris. Donc, Pardès l'avait sollicité tout naturellement, et il est venu me trouver parce que j'avais beaucoup de documentation, beaucoup d'informations sur Gré-Paris, puisque j'ai animé l'association des Amis de Gré-Paris pendant 10 ans, et j'ai fait ce dossierage dont on a parlé tout à l'heure, donc que je l'ai très bien connu en plus. Alors, on a décidé de travailler ensemble, mais au lieu d'écrire à quatre mains, on s'est partagé la tâche. La tâche qui était très agréable, du reste. Donc moi, je me suis occupée de tout l'aspect documentaire, la biographie, raconter un peu ce qu'il y a dans les romans, dans les pièces de théâtre, enfin faire un travail vraiment documentaire. Et lui s'est chargé du chapitre sur Dieu, où il avait beaucoup à dire. Il avait des comptes à régler lui-même avec Dieu, donc ça tombait très bien. Et du coup, puisque ça se lit tout naturellement dans l'œuvre de Gré-Paris, sur les contes, à la fois contes pour enfants et nouvelles. Parce que là, je crois que c'était tout à fait l'idée de Gré-Paris de ne pas séparer, comme vous disiez tout à l'heure, à part la forme des contes pour enfants qui ne doit avoir aucune digression et aucun aspect politique ou sexuel. Sinon, le travail du créateur est le même. Alors voilà, il a fait les chapitres sur les contes et sur Dieu, qui ont un petit peu plus l'allure d'essais personnels, en tout cas pour le chapitre sur Dieu, mais qui se base sur ce que Gripari a écrit. Parce que Gripari s'exprimait très facilement sur lui-même. Alors il le faisait quelquefois d'une manière aussi fantastique, mais c'est pareil quand on approfondit, quand on y réfléchit, ce fantastique-là est tout à fait réaliste en même temps. Par exemple, je ne sais pas si on a le temps.
Si, allez-y, on a tout le temps.
À propos de sa biographie, il a écrit lui-même une petite biographie. Pierre Gripari est né il y a plusieurs siècles dans la petite ville de Lutèce en Gaule. Bon, ça, on comprend ce que ça veut dire. En ce temps-là, la France s'appelait la Gaule, mais c'était un pays bien différent de celui que nous connaissons. Sa mère était une sorcière viking et son père un magicien grec. Sa mère était normande, il faut le dire, et son père était effectivement d'origine grecque. Le grand-père de son père avait été maire de Mykonos, du village de Mykonos, dans l'île de Mykonos. Ils s'épousèrent par amour, mais leur union ne fut pas heureuse. La mère espérait que le père utiliserait sa magie orientale pour fabriquer de l'or, mais le père s'y refusait. On comprend aussi très bien ce que ça veut dire, bien que ça soit un conte. De son côté, elle abusait de la potion magique et finit un beau jour par se noyer dans son chaudron. Il faut entendre qu'elle est morte d'alcoolisme. Quelques années plus tard, le père était foudroyé par un feu descendu du ciel. On pense généralement que Dieu était fâché contre lui, mais on n'a jamais su pourquoi. En fait, il était dans un autobus qui a été bombardé à la fin de la guerre par les Anglais ou les Américains, je ne sais pas. Voilà, donc il raconte les choses réelles de cette façon-là, souvent, vous voyez.
Parce qu'il a, alors on va en arriver, je veux dire, à ce qui est sulfureux chez Pierre Gripari, parce que là les gens vont se demander, mais pourquoi cet écrivain n'a pas
provocateur,
pu.
Provocateur,
il est très, provocateur. En fin de compte, il y a eu une ambiguïté parce que beaucoup de ses adversaires vont considérer que c'est un écrivain qui est légèrement, même un maximum antisémite, alors que Pierre Gripari, c'est quelqu'un qui est contre les ismes en règle générale, le judaïsme, le christianisme, le communisme, toute forme d'idéologie, il les considère comme totalitaires.
Oui, ça s'élargit même plus loin que l'idéologie, parce que tout ce qui est de l'ordre de la foi, de la croyance, de l'espérance, ça, c'est absolument pour lui rédhibitoire. L'homme doit absolument affronter le néant, et ça doit au contraire lui donner de l'allant et le désir de vivre en créant et en ayant une œuvre. Alors, il y a un livre clé dans l'œuvre de Gripari qui s'appelle L'Évangile du Rien, qui est en fait un livre, c'est une anthologie de textes dont il fait des commentaires à chaque fois, des commentaires très personnels, parce que dans L'Évangile du Rien, qui est censé être athée, écrit, commenté par un athée, il y a par exemple Maître Eckhart, vous voyez, et des gens qui sont tout à fait croyants. Et il y a une préface où il fait sa profession de foi, si on peut appeler ça comme ça, qui est tout à fait éclairante sur sa façon d'envisager le monde, justement, n'ayant pas de sens tout au moins transcendant.
Et en même temps, et c'est ce qui le différencie, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler un écrivain de droite, il est antinationaliste, il ne supporte pas les nationalismes.
Oui, mais il supporte que chaque peuple ait sa particularité, sa littérature, évidemment.
Et sa littérature, oui.
C'est donc, je pense que le mot nationalisme est un petit peu vague, souvent, dans l'esprit des gens. Mmh. Et lui, évidemment, rejette le nationalisme qui amène les gens à la guerre. Ça, oui. Mmh. D'accord. Et maintenant, on l'entend plus comme ça, forcément. Mais dans le monde où Gripari est né, où il a été élevé, vous imaginez entre les deux guerres ce que ça voulait dire nationalisme par rapport aux guerres européennes. C'était tragique, effectivement.
Lucien Valdès.
À cet égard, c'est une nouvelle sur Jeanne d'Arc.
Oui.
On en avait parlé. Si vous voulez rappeler en quelques lignes.
Oui, une... il imagine John Bow, qui est le pendant de Jeanne d'Arc en Angleterre. Et la, l'idée de cette nouvelle, enfin, il faut que je me la remémore, je ne l'ai pas lue depuis longtemps, mais l'idée de cette nouvelle, c'est que il y a une Jeanne d'Arc masculine en Angleterre, mais il lui arrive les mêmes choses, les mêmes, et avec des jeux de mots, des choses très amusantes dans le récit. Et il pense que Jeanne d'Arc a empêché l'Europe de se faire à l'époque où le roi d'Angleterre aurait unifié l'Europe, peut-être, ça aurait été très bien. Donc, il y a souvent dans l'œuvre de Gripari, et si c'était vrai, s'il y avait eu ça, et puis, encore une fois...
C'est
une idée tout à fait fantaisiste, bien évidemment. Sûr. Et puis, en même temps, au fond de cette idée, il y a cette notion que les Anglais auraient pu dominer l'Europe pour des raisons dynastiques tout à fait juridiquement recevables, et que l'histoire de l'Europe aurait été différente.
Non, on pourrait, il y a ce petit texte, enfin, qui est l'introduction à Pour une culture européenne, où Gripari dit, j'espère qu'un jour notre patrie sera non plus la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni la Pologne, ni la Grèce, ni la Russie, mais l'Europe, une Europe où le nationalisme du stupide 20e siècle sera aussi passé de mode que l'esprit de clocher, l'esprit de secte ou le racisme, où toute discrimination ethnique à l'intérieur de notre sous-continent paraîtra ridicule, où tout Européen, quelles que soient ses origines, sera considéré comme un compatriote. C'est pas pour ça qu'il accepte l'Europe qui est en train de se construire à partir de Bruxelles.
Je crois qu'il en a vu quand même les prémices, puisqu'il est mort en 1990. Je crois qu'il n'y faisait même pas attention, il n'en discutait même pas. Je veux dire, bon. Mais il faut dire que Gripari était un citoyen irréprochable. Pas du tout. Quelquefois, on se dit qu'il était anarchiste. Pas du tout, non. Il était un homme d'ordre tout à fait. Il payait ses impôts quand il devait en payer. Enfin, en buvant un café au comptoir, déjà, on paye un impôt. Mais je veux dire, il était absolument dans la règle. Et il considérait que moins l'État s'occupait de lui, mieux c'était. Mais bon, il n'avait pas de projet politique immédiat d'engagement. Il a vécu dans des milieux assez différents. Et pour les circonstances que je vous ai racontées tout à l'heure à propos de la table ronde, il s'est trouvé dans un milieu un peu d'extrême droite. Ici, il fait des amis. Il n'a pas du tout été effarouché. Il a trouvé que humainement, c'était très intéressant. De même qu'il avait trouvé que dans le milieu communiste où il s'était trouvé après la guerre et quand il avait fait ses petits boulots, qu'il avait amené à rencontrer des travailleurs de base, si on peut dire, il avait rencontré des gens qui humainement étaient tout à fait sympathiques et intéressants. C'était la sincérité et l'authenticité qui étaient des critères importants pour lui, peut-être plus que les grandes envolées de la pensée et de l'intelligence, tout au moins dans ses relations humaines. Et il était extrêmement cordial. Vous savez sans doute qu'il a habité rue de la Folie-Méricourt et qu'il y a des contes de la Folie-Méricourt. Il habitait un petit studio au premier étage et en dessous, il y avait un restaurant qui s'appelait Chez Dany, qui était encore un restaurant populaire où les artisans du coin, les employés venaient déjeuner régulièrement, tout le monde se connaissait. Et on y mangeait allègrement du hareng à l'huile, du saucisson avec des grandes tartines de beurre. Enfin, c'était pas du tout diététique, mais c'était très amusant comme ambiance. Et c'était son salon en quelque sorte. Ses amis venaient le voir là à l'heure du déjeuner ou lui téléphonaient. Il arrivait au comptoir pour répondre au téléphone parce qu'il n'avait pas le téléphone chez lui. Et donc les gens qu'il côtoyait tous les jours le connaissaient, le regardaient avec une certaine à la fois de la curiosité mais en même temps beaucoup de tendresse parce qu'il était très sympathique, très gentil, très souriant, très, très dynamique, etc. Alors évidemment, ils commentaient avec eux les nouvelles du Parisien, le match de football et tout ça. Mais en revanche, eux écoutaient quand il entonnait la chevauchée de la Valkyrie ou qu'il racontait qu'il était à l'opéra et qu'il avait entendu telle chose ou qu'il racontait une histoire. C'était vraiment une relation tout à fait harmonieuse. Et je ne sais pas, vous savez que peut-être, enfin sans doute, même que Marcel Landowski, le compositeur Marcel Landowski, a écrit une cantate inspirée de La sorcière du placard à balai, qu'on chante souvent dans les écoles de musique et tout ça. C'est pour des voix d'enfants, quelques musiciens, enfin. Et à ce moment-là, Pierre Gripari était encore vivant, donc ils ont travaillé ensemble à l'aménagement du texte. Et donc Landowski, qui était un haut fonctionnaire, un compositeur d'abord, et puis qui a fait un travail de haut fonctionnaire assez important dans les années 70, donc ils ont travaillé ensemble. Et Landowski venait chez Dany pour travailler avec lui au milieu de tout ce monde-là, ce qui est assez, assez incroyable, quoi. Donc ça, c'est...
Ça a dû lui faire plaisir quand même d'être mis en musique quelque part, c'était réunir ses deux grandes passions.
Ben oui, j'étais pas à Paris, moi, à l'époque où ça s'est passé, ça. J'habitais en province et j'ai pas été là sur le moment. J'ai pas d'anecdote de conversation particulière, mais oui, il était content. Oui.
Quel était son... Est-ce qu'il voyait son public? Parce qu'il il dit souvent, enfin ses lecteurs, qu'il faut surtout pas fréquenter trop ses lecteurs. Et en même temps, Pierre Gripari est connu et reconnu parce que ses lecteurs, parce que les libraires. Il y a une anecdote assez intéressante dans l'émission qu'il avait fait avec Jacques Chancel. Jacques Chancel disait « Je vous ai invité parce que les libraires m'ont envoyé des lettres pour que je vous invite.
Oui. »
Donc il y avait un rapport quand même à ses lecteurs. Les gens qui aiment Pierre Gripari sont des gens qui sont fidèles à sa lecture.
Oui, mais il avait, vous savez, une espèce d'aura, un rayonnement par sa personnalité qui était en conformité parfaite avec ce qu'il écrivait. Vous voyez, c'est pas toujours le cas. Il y a des écrivains qu'on les rencontre, où le contact est plus ou moins bon. Lui, il était d'abord, comme je vous le disais, à travers cette anecdote chez Dany, extrêmement sociable et gentil et cordial. Et donc ça marquait. Quand ses lecteurs le connaissaient, ce qui était la plupart du temps le cas, enfin par exemple moi dans ma librairie, quand on l'a connu, on lui a fait faire des séances de dédicaces, donc la clientèle de la librairie ou les gens qui passaient par là l'ont rencontré, et puis à partir du moment où on l'avait rencontré, on continuait de le lire et de le fréquenter, bien sûr. Donc il a, ses lecteurs, ça j'en suis sûre, quand ils le connaissent, sont fidèles. Maintenant, les contraintes matérielles de la diffusion des livres qui obéissent à des règles qui n'ont rien à voir avec le talent, le charme de la personne ou le talent de l'écrivain, ça pose un peu un problème. Il n'en a pas assez des lecteurs. Il faudrait qu'il en ait plus. Et j'aimerais, le souhait que je fais pour le 21e siècle, c'est que les enfants, les gens de votre génération, qui ont lu les contes quand ils étaient enfants, qui les ont même connus à l'école souvent, parce que maintenant ils sont très, très diffusés, très répandus, il faudrait qu'ils continuent à lire Gripari en grandissant, en étant adultes. En passant par Patrouille du Conte et en avançant vers les autres livres, Patrouille du Conte est une espèce de... C'est un peu un roman pour adolescents, parce que on laisse derrière soi le charme des contes naturels, enfin je veux dire les contes dans leur état premier, les contes de Perrault en particulier, qu'on a connus tous étant enfants, même si maintenant ils sont un peu détournés. Et c'est comme ça un peu qu'on devient adulte, en lisant Patrouille du Conte, en remettant en question le côté merveilleux et en abordant le fond des choses, justement. Et puis les adultes lisent Patrouille du Conte en éclatant de rire toutes les trois pages à cause du politiquement correct, du renversement des situations, qui est aussi une technique d'écriture chez Gripari très, très importante et un ressort du comique tout à fait important.
Manie le paradoxe.
Ouais.
Et quelle serait alors la suite logique? Vous nous avez parlé de Patrouille.
Oui, Patrouille du Conte, c'est très, ça peut vraiment jouer ce rôle-là. Et puis après, tout, hein, les nouvelles, les romans, et bon, si on aime la littérature, la poésie, encore une fois, le théâtre peut se lire comme un roman, comme des romans dialogués. On peut le lire aussi, il y a des personnages, des histoires, des choses passionnantes dans le théâtre. Et voilà, tout y est. On peut très bien aller à l'âge d'homme, enfin pour les gens qui habitent Paris ou près de Paris ou qui passent à Paris même. Ça sera un pèlerinage à ce moment-là, et rue Férou, tout près de l'église Saint-Sulpice. Et là, on a toute la littérature pour adultes, en tout cas, tous les livres de Gripari sur les rayonnages, on feuillette, on regarde, on lit les quatrièmes de couverture, et puis on emporte un grand sac, parce que parce que ça sera une promesse de grand plaisir à lire.
Alors, allez-y.
Je l'ai dit, je ne sais pas, peut-être que l'âge d'homme est ouvert tout l'été.
Ah bah oui, non, vous ne l'avez pas dit, on va le dire, c'est ouvert tout l'été. Et alors, il y a vous m'avez dit qu'il y avait quelques rééditions.
Alors, justement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Vladimir Dmitrievitch, qui, au-delà du siècle, en passant, le siècle reste fidèle irrémédiablement à Gripari. Donc il a réédité Patrouille du Comte dans une édition de poche, très bon marché là au début de l'année. C'est Alain Pocard, qui est une vedette de Radio Courtoisie, que tout le monde connaît à Radio Courtoisie.
Qui avait fait un livre d'entretien avec
Pierre Gripari. Oui, qui a fait un très beau livre d'entretien avec Gripari, qui a fait la préface de ce Patrouille du Comte. Et puis je pense qu'à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, le recueil de nouvelles Rêveries d'un Martien en exil va paraître aussi dans cette même collection de livres de poche qui s'appelle Le Révisor et qui est, bon, comme tous les livres de poche, très bon marché, mais très joli quand même, avec une belle couverture.
Alors, voilà. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'avais une question, parce que c'est en relisant un texte sur les écrivains féminins. Il y a un problème avec les femmes écrivains?
Les femmes écrivains, pas spécialement. On a dit qu'il était misogyne. Bon, moi, je l'ai bien connu. Je ne me suis pas rendu compte une seconde de ça. Mais en tout cas, c'est pas la provocation étant une réaction, si vous voulez. Je parlais tout à l'heure du communisme, de la psychanalyse, de tout ça. J'avais oublié le féminisme qui est arrivé un petit peu après, mais qui était un vrai cauchemar. Alors ça a été totalement un cauchemar. Et je ne sais pas, on peut pas juger parce qu'on est dans l'époque où il y a les retombées de ça maintenant. C'est plus aussi important, mais ça laisse des traces, on va dire. Et il a réagi contre ça en disant qu'il y avait une guerre des sexes loyale, qu'il fallait tous la vivre, voilà. Alors comme il était homosexuel, évidemment, ça prête à malentendu là aussi, mais la littérature de femmes. Je pense qu'il n'aimait pas beaucoup Marguerite Yourcenar, ça c'est vrai. Pas du tout Marguerite Duras, mais il n'est pas
ça,
le seul.
Mais ça, ça peut se comprendre. Oui.
Mais bon, par rapport aux écrivains hommes, je crois qu'il était assez critique dans quand il s'agissait d'œuvres, justement d'œuvres de circonstances, d'œuvres engagées, d'œuvres où les écrivains, comme vous disiez tout à l'heure, savent trop bien quel est leur public et ce qu'il faut faire pour être édité et avoir du succès.
C'était dans Critique et Autocritique, il y a un texte extraordinaire qui est un peu un mode d'emploi pour savoir comment avoir le concours. Donc il explique exactement tout le mécanisme d'un roman, c'est extraordinaire. Parce que ça, il est en guerre contre la littérature contemporaine d'après-guerre.
Ben, la littérature de circonstances, quoi. Oui, bien sûr. Alors, cela dit, il en était sans doute bien conscient. Enfin, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé précisément, mais chaque époque connaît ce phénomène, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de grandes valeurs de l'entre-deux-guerres qui étaient des gens très considérables à l'époque qui sont totalement oubliés. Je pense d'ailleurs que pour que de très grands écrivains comme Céline, Proust ou des gens comme ça émergent, il faut qu'il y ait une espèce de terreau de gens de lettres. Vous voyez, qui écrivent dans des journaux, qui font des chroniques, qui font des choses secondaires, mais qui sont quand même très nécessaires à l'activité littéraire en général, à la sociologie de la littérature. Donc Gripari en était bien conscient. Il négligeait bien sûr toute cette littérature-là. Mais tout ça, vous savez, s'exprimait dans des grands éclats de rire avec beaucoup d'humour. Il n'avait aucune amertume. Il aurait pu en avoir par rapport justement au monde éditorial, au monde du théâtre, tout ça, mais non, il n'en avait aucune. Tout était matière à encore plus s'engager dans son œuvre, et il était persuadé, ça, il l'exprimait alors pour le coup souvent, qu'un jour ou l'autre, il trouverait son public et qu'il serait beaucoup plus lu et que son œuvre rayonnerait.
Ce en quoi il avait raison.
Eh bien, écoutez, je l'espère. Écoutez, les astrologues le disent aussi. Parce que quand je m'occupais de l'association, j'ai eu l'occasion de montrer. Des gens ont proposé de faire son thème. Et on dit que, je crois, vers 2015 ou 2020, ça y est, ça serait la grande explosion. Alors, si ça doit arriver, je pense que ça sera plutôt à travers un film, une. un spectacle, quelque chose comme ça, parce que un livre qui tout d'un coup, non, ça je le vois pas.
Hein, comment vous expliquez son, je crois, l'unanimité qu'il y a autour de ces contes de la rue Broca, qui sont, c'est chez Grasset, hein, oui. Qu'il est toujours édité, et qu'on a vraiment séparé son œuvre en deux à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à.
Parce qu'elle est inclassable. Comment classer aujourd'hui quelqu'un qui écrit que, oui, le droit de blasphème, par ouais. exemple, mmh. et qui s'attaque autant, ouais. autant au christianisme qu'au judaïsme qu'à l'islam. C'est un peu compliqué, c'est une matière explosive aussi.
Oui, les gens ont besoin d'un confort. Hein,
voilà. C'est tout sauf le confort.
Oui, voilà. Alors, ça ne marche pas. Et les contes, je dois vous dire que ce n'est pas le marché du livre qui les a mis en avant, c'est les enfants. Ça marchait tellement bien avec les enfants que les enseignants se sont pliés à ça. Bon, tout ça s'est passé sans volonté, ce n'est pas un complot. Hein,
Mais ça s'est passé sur de longues années.
Oui, encore que là, pour les contes de la rue Broca, là aussi, ça a été un peu un miracle, parce qu'il existait donc ce livre dans l'état dont nous avons parlé plus haut, là, à la table ronde. Et puis, là, un jour, un libraire de Nice qui s'appelle Jean-Pierre Rudin, qui était un très grand libraire, un très bon libraire, je veux dire, les a lus par hasard, parce que c'était un libraire qui lisait, il emportait des piles chez lui pendant le week-end. Il a lu Phosphornoloque aussi. Et puis après, il a enchaîné sur les contes de la rue Broca, et il est allé partout à Nice. Il avait une grande librairie à Nice, je vous disais. Il est allé partout dans les bibliothèques, les écoles et tout, où il était connu quand même, et il a imposé le livre. Et ça a eu tellement de succès avec les enfants que c'est remonté comme ça par la base, curieusement. Et alors, Jean-Pierre Rudin dit toujours, il est très fier de ça, c'est un vieux monsieur maintenant, il est très fier de cette aventure, et il dit toujours, je les ai eus par la persuasion ou par la force. Mais en tout cas, il a été le passeur, le truchement pour les contes de la rue Broca. Et après, c'est les enfants, et puis le théâtre pour enfants marche très très bien, donc il est très joué. Justement, Patrouille du Conte a donné matière à une pièce, enfin c'est Gripari qui l'a écrite, il en a fait une pièce qui s'appelle Inspecteur Toutou, et qui raconte la même histoire, c'est-à-dire un personnage qui veut mettre cul par-dessus tête tous les contes en les moralisant, et ça tourne très très mal parce qu'on ne va pas à l'encontre de la vie elle-même. Et cette pièce, elle marche très très bien, elle a beaucoup de succès, elle est jouée dans beaucoup d'écoles, beaucoup d'endroits.
On va faire encore une petite pause, puis on va se retrouver pour encore quelques minutes pour parler de Pierre Gripari. Donc, troisième et dernière partie de ces chroniques de la vieille Europe, et nous sommes toujours avec Anne-Martin Conrad. On va continuer encore sur Pierre Gripari, et je vais passer la parole à Lucien Valdès qui voulait parler d'Europe. Continuer sur cette idée de écrivain européen, on va dire ça.
Je vais d'abord rappeler que nous recevons donc Anne-Martin Conrad pour le livre Gripari, la collection Qui suis-je aux éditions Pardès, qu'elle a écrit donc avec Jacques Marlot.
Jacques Marlot que nous avions reçu.
Exactement, il y a quelques temps.
Il y a quelques temps.
Même si Pierre Gripari s'est tenu à l'écart de la politique, il a quand même été un compagnon de route. Notamment du Grèce. Il a notamment écrit dans la revue Éléments. C'était à cause de l'engagement européen du Grèce, de Éléments. Comment on peut... on a lu tout à l'heure... on a évoqué la nouvelle sur Jeanne d'Arc et sur l'idée de patrie européenne. Qu'est-ce qui le motivait dans l'idée de patrie européenne?
Alors, je vous dirais que historiquement, par rapport aux Grèces, c'est les relations humaines qui l'ont amené aux Grèces. Hein, c'est des relations d'amitié. Finalement. Oui, j'insiste là-dessus parce que c'est une constante bien pour sûr. Lui. Il a trouvé là en plus un public pour ses livres dans ce petit monde-là du Grèce, enfin ce grand monde d'ailleurs du Grèce. Il a trouvé des lecteurs et pour lui c'était une base des relations tout à fait importante et des gens qui l'ont soutenu dans une période où c'était difficile pour lui, qui l'ont soutenu en l'admirant, en l'encourageant, en appréciant ce qu'il écrivait. C'était surtout ça qu'il recherchait. Et puis il a eu de la sympathie pour ce qui se passait aux Grèces, qui était effectivement très un grand projet, on va dire. Il a donc adhéré à ce projet-là, mais son approche toujours était littéraire. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui il avait des idées sur la philosophie, sur l'histoire, comme on a vu, mais ça lui servait d'inspiration
de
pour ce qu'il écrivait, de matière, mais toujours son approche était littéraire. Et donc, dans la littérature européenne, évidemment, qui foisonne et qui connaissait d'une manière absolument étonnante, admirable, y compris le fait que, comme je vous ai dit, il avait appris le russe pour pouvoir aborder la littérature russe. Il a fait la même chose avec l'allemand. Il aimait beaucoup le romantisme allemand, les écrivains romantiques. Donc, il a étudié l'allemand pour pouvoir les lire dans le texte. Enfin, il était très consciencieux pour ça. Et pour lui, je pense que la Grèce et sa philosophie tragique étaient aussi quelque chose de vraiment une source sans fin d'inspiration pour lui et d'animation de son esprit. Et donc, voilà, il a écrit beaucoup de choses qui sont des cris d'amour à l'Europe, à sa littérature, à ses grands écrivains et à ses personnages. Parce que pour lui, écrivain ou personnage littéraire ou personnage de théâtre ou de poèmes épiques et tout ça, c'est pareil, ils sont aussi vivants, vous voyez. Il parlait souvent de personnages, je me souviens très bien, ou même de héros d'opéra, comme s'il les avait rencontrés la veille au coin de la rue. Ils existaient vraiment, ils étaient incarnés. Et il a écrit un très très beau livre qui s'appelle « Le Comte de Paris ». Mais c'est Paris, le héros de l'Iliade, où il mélange absolument tout la Grèce, le roman arthurien, la littérature russe. Et il fait une scène, il y a un chapitre qui est une rencontre entre Ulysse, avec l'homme à la rame, il l'appelle, et Sadko, l'homme à la cithare, qui est le personnage des contes de Nijni Novgorod. Et alors ces deux-là se rencontrent, et ça se passe à Marseille. Et ils se disputent, ils se battent, il faut les séparer. Enfin, il y a une scène absolument très, très, très drôle. Pendant que les habitants de Marseille se jettent à terre en faisant des prières à leur déesse bonne mère, etc. Enfin, tout est mêlé d'une manière vraiment très drôle. Et ce livre, auquel il tenait beaucoup, qui est vraiment une grande réussite, il l'a dédié, il a fait une dédicace. Et je vous la lis, ces quelques lignes, parce que je la trouve très émouvante et très belle. Ce livre est tendrement dédié aux grands Sumériens, Akkadiens, Assyriens et Babyloniens qui inventèrent, élaborèrent et transcrivirent l'histoire de Gilgamesh, aux bardes d'Occident, aux moines d'Irlande et du pays de Galles, aux diseurs de Bilines, aux poètes de l'Edda, aux conteurs inconnus de la Völsung saga, aux poètes inconnus du Nibelungenlied, à celui ou à ceux qu'on appelle Homère, aux auteurs du Mahabharata et du Ramayana, à celui qu'on appelle le deutéronomiste, à qui l'on doit les grands récits épiques de Josué, des juges, de Samuel et des rois, aux auteurs disparus des chants du Kalevala, recueillis plus tard par Elias Lönnrot, aux auteurs méconnus du cycle Lancelot Graal en prose, bref, à tous les bienfaiteurs sans nom qui, se penchant sur les berceaux des peuples, leur contèrent tout bas de si belles histoires que leur âme depuis en reste émerveillée. Donc ça, c'est tout à fait la profession de foi de Gripari. Alors, vous noterez que la Bible a sa place là-dedans, mais il considérait que la Bible, l'Ancien Testament, était un roman épique.
Roman, voilà.
Alors que les évangiles ça lui paraissait fade et pas du tout crédible. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais
si, oui, parce qu'il a une idée. Il le dit lui-même. Il met ce qu'il appelle les grands bouquins où il faut tout mettre, où l'écrivain doit tout mettre. Voilà. C'est quasiment son dernier.
Ouais,
Et ça, c'est une notion qui met dans certains livres. C'est assez marrant ça, cette façon de dire ça va être mon dernier, ça risque d'être terminé.
D'ailleurs, Jacques Marlowe ouvre son chapitre, je trouve, avec une réflexion qui est très très intéressante. Attendez, je trouve ça. Ça s'appelle Pierre Gripari contre tout contre Dieu, parodie Sacha Guitry. Et il dit, s'il fallait une formule pour décrire la religion de Pierre Gripari, nous dirions une harmonie de contradictions assumées et cultivées. Et c'est vraiment ça. Et évidemment, c'est matière à littérature plus qu'à pensée ou à entreprise révolutionnaire ou idéologique.
Alors, en citant ce que vous venez de dire, on s'aperçoit, alors on s'en aperçoit pas forcément que dans ses livres, mais dans ses entretiens, etc., il est d'une très grande culture littéraire et une connaissance des mythes européens qui est incroyable.
Oui, ça c'est... Mais vous savez, il vivait du matin au soir, soit en lisant, soit en écrivant, soit en pensant à ce qu'il avait lu ou à ce qu'il allait écrire. Hein. Il avait une hygiène de vie telle que rien ne l'embarrassait. Évidemment, il n'était pas préoccupé par sa vie de famille, les études des enfants, les freins de sa voiture à changer ou sa télévision.
Oui, parce que c'est un choix, la littérature. On ne peut pas avoir une vie de famille, s'occuper du quotidien et être écrivain.
Il avait d'autres raisons que nous avons évoquées pour ne pas avoir de vie de famille. Mais je crois que même s'il n'y avait pas eu cette raison, il le dit souvent d'ailleurs, il le dit beaucoup dans Gripari, mode d'emploi, le livre d'entretien qu'il a fait avec Alain Pocard. Et c'était vraiment... Il disait que son œuvre passait avant tout, après venait l'amitié, puis après l'amour s'il y a encore du temps. Donc ça veut tout dire.
Lucien Valdès, quelque chose à rajouter ou allez-y, hein, Lucien, si vous avez...
C'est sur son athéisme radical que je voudrais revenir, parce qu'il a été... on l'a vu, il était quand même dans une atmosphère au sein de ce qu'on peut appeler des écrivains de droite. Comment il a pu, évoluer, comment il a pu incarner, poursuivre ses idées d'athéisme au sein de cette famille de pensée. C'est quand même très très contradictoire, non?
Et il en avait plusieurs, des familles de pensée, vous savez. Il a été très à l'aise dans ce monde-là dont vous parlez, dans ce milieu dont vous parlez. Je veux pas dire le mot milieu, c'est pas un joli mot pour ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans cette famille de pensée, enfin voilà. Il y a eu beaucoup d'amis, il a eu des grandes discussions, et qui l'intéressaient. Mais il allait aussi dans d'autres mondes. Vous savez, un jour j'ai rencontré un curé traditionnaliste qui était là, qui assistait à une de ses lectures en soutane et en godillot. Et ça se passait au Centre National des Lettres. Et puis après, il me le présente en me disant « c'est mon ami ». Mais moi, je ne le connaissais pas. J'étais un peu interloquée justement de voir cet homme-là, qui était d'ailleurs tout à fait souriant et aimable, et qui m'a dit « ah, madame, vous savez, si Dieu n'existait pas, je me demande ce qu'il aurait raconté ». Et c'est tout à fait vrai. Dieu est un personnage absolument privilégié de toute son œuvre. Et il y a cette fameuse nouvelle qui s'appelle Dieu, d'ailleurs, qui se passe dans le monde communiste en Russie et qui raconte l'histoire d'un membre du parti, et non moins philosophe, à qui, justement, le comité central demande d'écrire un essai pour en finir avec l'existence de Dieu. Et on lui donne une datcha, des provisions, puis on lui dit... Il faut que tu nous prouves, il faut que tu écrives un livre qui prouve l'inexistence de Dieu. Donc, ce garçon se met à l'ouvrage innocemment et puis se dit, ben quand même, j'ai entendu parler de la Bible, mais je l'ai pas lu, il faut que je la lise. Alors on lui dit, mais non, c'est pas la peine, c'est un vieux truc. Puis d'abord, il y en a plus, elles ont toutes disparu. Enfin, il y a tout un tas d'événements. Et finalement, il arrive à faire son essai qui montre l'inexistence de Dieu, ou tout au moins qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe. Et puis il apparaît dans sa vie un petit personnage dans l'âtre, au coin du feu, Et ça correspond à une comptine qui dit « Dieu est un petit bonhomme tout bleu qui fume sa pipe au coin du feu ». Et ce personnage-là le hante et il va dire à son, avec sincérité, il va dire à son commissaire du peuple « Mais d'accord, Dieu n'existe pas, mais il y a le petit bonhomme tout bleu, enfin, Dieu est un petit bonhomme tout bleu et je le vois, il est là, je ne peux pas m'en défaire ». Alors je lui dis « Bah, t'as qu'à écrire un livre pour montrer l'inexistence du petit bonhomme tout bleu ». Et le héros ne peut pas l'écrire, renvoie tous ses dossiers et se suicide. Donc c'est quand même, c'est compliqué, vous savez, Dieu dans l'esprit de Gripari, parce que ce qu'il n'accepte pas, c'est la religion, encore une fois, l'idée qu'il y a une espérance, une vie après la mort et tout ça. C'est ça qu'il ne veut pas du tout accepter. Mais le fait que les hommes se créent des mythes, des religions, des contes et de la littérature, ça, il serait mal placé pour ne pas en vouloir. Donc c'est assez compliqué. Mais Jacques Marlowe explique ça très bien dans le livre.
Dans le livre et donc dans c'est Pierre Guépari contre tout contre Dieu.
Voilà, oui, parce que quand Pierre Guépari se disait athée, le mot est un peu.
C'est-à-dire il n'est pas agnostique parce qu'il s'en moque pas.
Il ne se dit pas.
Il existe, il n'existe pas.
Ne croyez à rien, mais croyez-y de toutes vos forces.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Oui. C'est ce qu'il disait.
C'est-à-dire trouver. Dans les éléments que vous choisirez, des raisons de vivre, de créer, d'accomplir votre destinée. D'accord. Donc,
nous
avons le choix.
Moi, j'ai simplement, parce que j'avais très envie, il y a ce texte sur le Goncourt que je trouve très drôle, où il vous explique...
On vient de parler de Dieu.
Je le ramène au Goncourt. qui est assez drôle. Un tout petit peu long, mais comme on a un peu de temps, et ce sont ces fameuses émissions d'été qui nous le permettent. Donc, Pierre Guépari nous explique, si donc vous voulez écrire un Goncourt, prenez tout d'abord connaissance des lois du genre. Le Goncourt est un roman de longueur moyenne, de 150 à 500 pages, écrit dans une langue correcte, coulante, élégante, plutôt neutre, évitant aussi bien le relâchement que l'excès d'originalité. Un style trop brillant, trop voulu, inquiète le lecteur moyen, l'irrite, lui fait l'effet d'une provocation, d'un défi. En pareil cas, le meilleur style est celui qui sait se faire oublier. Pour le fond, choisissez vos personnages dans une bourgeoisie aisée. Fuyez d'une part l'ouvriérisme militant qui est indiscret, mais plus encore l'élitisme grand bourgeois ou féodal qui faisait les délices de nos grands-mères. Il faut que le lecteur puisse sans effort s'identifier à vos héros, qu'il lui suffise pour cela de s'imaginer en éternelles vacances ou même un peu plus libre de son emploi du temps qu'il ne l'est en réalité. Ces héros qui porteront les prénoms les plus usuels, les plus incolores possibles, vous les engagerez dans une histoire d'amour la plus banale que faire se pourra. Souvenez-vous d'une chose, les gens qui n'aiment pas lire, et c'est bien sûr pour eux que vous écrivez, les gens qui n'aiment pas lire n'admettent pas dans un roman que deux types de motivations, la violence et l'amour. Dans le cas qui nous occupe, la violence est à déconseiller, vu le nombre de dames néo-catholiques qui hantent les comités d'entreprise. Votre roman sera donc un roman d'amour. Il devra même contenir une ou deux scènes sexuelles. Le sexe jadis mal toléré constitue de nos jours un conditionnement indispensable. Mais c'est ici surtout qu'il faut faire preuve d'intuition. Vous devez chatouiller le lecteur sans le choquer. Et ça continue comme ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si l'âge d'homme a encore, mais c'est un recueil de textes qui était critique, autocritique.
Oui, l'âge d'homme a tout pratiquement. L'âge d'homme a le grand mérite de ne rien pilonner, au contraire de ce que font tous les éditeurs.
Mais c'est un texte qui a été écrit en 81.
Oui, qui a été écrit. Enfin, le texte est peut-être un peu plus vieux, mais c'était surtout pour rendre hommage à Michel Tournier. Il était un grand admirateur de Michel Tournier, oui. qui est un peu un.
Oui, et Michel Tournier le lui rendait.
Ouais.
Je ne sais pas parce qu'il en a, il n'a pas eu tellement l'occasion de pousser en avant Gripari, mais il admirait son imagination. Disait qu'il aimerait bien avoir autant d'imagination que lui.
A-t-il eu dans les littératures contemporaines, des compagnons de route ou est-ce qu'il fréquentait les écrivains?
Oui, celui dont je vois la photo là sous mes yeux, Vladimir Volkov. Dans le dossier H qui est consacré à Vladimir Volkov par Lydwin Ellie, qui est une productrice de Radio Courtoisie, que tout le monde connaît. Il y a un chapitre sur ses relations avec Pierre Guépari à travers une correspondance qu'ils ont échangée. Et puis, il a aussi eu des relations avec Gabriel Matzneff, qui lui, alors, n'est pas du tout le même genre. Justement, Gabriel Matzneff est vraiment un styliste.
C'est très marrant parce que c'est un style
très
proche d'un Monterland.
C'est ça. C'est un véritable, bien qu'il soit d'origine russe, c'est vraiment un écrivain français, Matzneff. Alors que Gripari est plus un écrivain européen qu'un écrivain typiquement français. Mm-hmm. Par son inspiration, par
mais il le disait lui-même en préparant l'émission, ce que je vous disais, j'avais retrouvé dans un de ses entretiens où il expliquait qu'il se sentait un écrivain de l'Europe de l'Est et non pas un écrivain français.
Oui.
Et donc, à part Gabriel Matzneff, c'est très marrant, parce que Gabriel Matzneff, on est dans la littérature française classique de droite,
Tout à fait. Mais en même temps, les deux s'entendaient bien d'abord sur l'amour de la Russie, quand même, et de la littérature en général, et de la littérature russe en particulier. Et puis sur aussi les romantiques allemands qu'ils aiment tous les deux. Voilà, je dis pas que c'était une, enfin je ne sais pas, hein, mais c'était pas une très grande amitié, mais ils se sont connus et appréciés, disons. Bon, à part ça, Jean Dutour. Oui, mais c'était Jean Dutour. Il a fait une très jolie chronique. Enfin, il a écrit un très beau texte au moment de la mort de Gripari. Ouais. Jean Dutour.
Oui, parce qu'il dit, je pense que Pierre Gripari connaîtra le même triomphe posthume qu'Alexandre Vialat.
Oui.
Ce qui est quand même un bel.
Et alors, à propos d'Alexandre Vialat, il faut dire que Alexandre Vialat écrivait dans La Montagne, comme vous savez. Mm-hmm. Et il a fait une chronique dans La Montagne sur les contes de la rue Broca, qui est d'une drôlerie extraordinaire. Mm-hmm. Et ça, c'était au moment de l'édition de La Table Ronde. D'ailleurs, Vialat est mort il y a longtemps.
Bien sûr.
Et donc, je l'ai reproduite dans le dossier H et elle est pas racontable parce que Vialat, son charme, c'est la lecture. Oui. Mais c'est très drôle.
D'accord. Est-ce que vous pensez que s'il n'avait pas été aussi provocateur, son œuvre littéraire, parce que dans son œuvre littéraire, il y a de la provocation, mais peut-être pas autant que dans ses critiques ou dans ses écrits
ses
essais. Il aurait pu avoir une carrière autre ou est-ce que c'est indissociable avec Paris, cette provocation?
C'est une destinée, vous savez, avec toutes sortes de choses tissées ensemble, on peut pas. Et quelquefois je me pose la question, je vois les événements actuels et je me dis qu'est-ce qu'il penserait. Honnêtement, je peux pas le dire, mais en fait sa vie, son œuvre forme un tout très cohérent. Tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et ça fait un merveilleux résultat, à mon avis. Hein. J'espère que l'avenir le reconnaîtra comme ça. Parce que sur le moment, évidemment, nous, on est très sensibles aux problèmes qu'il a pu rencontrer dans sa vie courante et puis aux problèmes qui étaient très réels, hein, de survie matérielle, de choses comme ça. Mais ça, c'est des choses qui vont s'effacer avec les années, avec le temps. Et il restera cette œuvre qui est nourrie quand même de cette ascèse, de cette passion, et qui s'est nourrie aussi de l'adversité.
Parce qu'il a, c'est vrai qu'on parlait de provocation, ça c'est du Gripari tout craché, mais moi qui me fait rire parce que quand on connaît Gripari, on sait qu'il y a du recul. Quand il parle de l'antisémitisme, il fait « Essayons pour une fois de regarder les choses en face. Céline est antisémite. Peut-être pas tout à fait autant que Moïse. » Déjà, là, en deux phrases, voilà, il a mis le ton et il décide d'aller provoquer en face. Il adore ça. Dans toute son œuvre, il adore...
Mais si vous voulez, ça s'est construit, vous voyez. C'est un peu comme un jeu d'échecs. On avance, voilà. Et puis à la fin, c'est lui qui gagne, j'en suis sûre, parce que l'œuvre est là.
Oui, l'œuvre est là.
Mais à propos de provocation, alors il y avait une autre forme à laquelle vous parliez des textes critiques, des nouvelles, des romans. Il l'est dans tous les domaines. Mais il l'était aussi, en réalité, quand il faisait des émissions de Bertrand Jérôme sur France Culture.
Des papous dans la tête.
Les papous dans la tête. Et toute l'équipe tremblait chaque fois qu'il intervenait, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Bertrand Jérôme tenait beaucoup à lui, parce que les gens écrivaient en disant qu'il était formidable. Ça les faisait beaucoup rire. Il était un animateur vraiment de grand talent dans cette émission, où il fallait quand même avoir les neurones qui fonctionnaient
qui
vite et bien.
Ouais.
Quelquefois pour pas grand-chose. Mais enfin bref, lui, il était un peu une vedette. Donc Bertrand Jérôme avait besoin de lui. Puis en même temps, il tremblait toujours de ce qu'il allait pouvoir raconter. Et là, c'était en direct. Enfin, et puis dans l'équipe de ses collègues dans cette émission, il y en avait qui pouvaient pas le, qui le détestaient. Hein.
Parce qu'il était imprévisible à ce niveau-là.
Oui, 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 tout à fait.
Ça a duré combien de temps? Ça a duré de longues années, non?
Cette émission, bon, je ne saurais plus vous le dire exactement, mais oui, une bonne dizaine d'années.
D'accord. Lucien Valdès, on va rappeler le livre de notre
sûr,
invité.
Bien évidemment,
parce
à lire
on touche
de,
à sa fin.
Voilà, à lire de toute urgence. Anne Martin Conrad et Jacques Marleau, donc dans la collection Qui suis-je, Gris Paris, aux éditions Pardès.
Et si vous voulez retrouver l'œuvre de Gris Paris, vous retrouverez chez L'Âge d'Homme, qui est ouvert tout l'été, on va le redire.
Rue Férou.
Alors, toute la partie chez La Table Ronde a été rééditée par L'Âge d'Homme, ou ils ont eu les droits ou...
Pour certaines choses, oui, mais tout ce qui est littérature jeunesse, c'est chez Grasset Jeunesse, c'est constamment réédité sous différentes formes, cher, pas cher, enfin bon, en album, en... Bon, il y a des disques, des CD, mais ça, je ne suis pas très au courant des parutions, mais ça existe. Et toute la littérature pour adultes est à L'Âge d'Homme.
D'accord.
Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Mon cher Lucien, il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez... Oui, bah oui, je vois, mais les auditeurs ne voient pas ce que vous me montrez. C'est le dernier numéro d'Éléments.
Voilà, qui vient juste de sortir. Et qui est dont le titre est assez alléchant, le titre et l'entretien. La nouvelle droite est-elle de gauche? C'est un entretien à trois voix avec d'un côté François Bousquet, qui est bien connu dans notre émission, de l'autre Alain de Benoist et Michel Marmin, qui prennent le titre. C'est la nouvelle droite entre quatre yeux.
Qui est un excellent entretien croisé, parce que François Bousquet titille les relances un peu sur cette idée de droite, et ils ont du mal quand même à, et je trouve l'entretien excellent.
Donc voilà, c'est dans tous les bons kiosques, et c'est le dernier numéro donc d'Éléments. Il y a aussi une évocation de Jean-Claude Vallat qui était
l'un des premiers rédacteurs en chef.
Qui a participé à toute l'aventure de la Nouvelle Droite et qui vient de mourir. Et donc, voilà, c'est un hommage.
Et avec un témoignage qui est extraordinaire d'un voyage que Michel Marmin a fait avec Jean-Claude Vallat, au Chili, dans toute l'Amérique du Sud, et qui est hilarant, que je trouve ça très drôle, et c'est un très bel hommage. Tout souvent, on a ces hommages à dire que c'était quelqu'un de bien, mais là, on a vraiment un témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort, parce que c'était juste au moment de la dictature de
Pinochet.
Du général Pinochet, enfin du coup d'État du général Pinochet. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc écoutez, on se retrouve dans 4 semaines pour une émission plus traditionnelle, on va revoir notre ami Philippe Christel, on parlera de géopolitique, de choses très importantes dans la société et dans le monde. En tout cas, je vous conseille vivement, même pas pendant les vacances, pendant toute l'année, de lire du Pierre Gris Paris, parce qu'on va fêter les 20 ans de sa mort.
Oui, au mois de décembre.
Au mois de décembre, et donc ça sera l'occasion de refaire des émissions. Il y a déjà eu une émission qui est passée il y a un mois, et où vous êtes passé avec Jacques Marleau chez notre ami Emmanuel Ratier, qui a fait aussi une émission.
Ça va être... la semaine prochaine.
C'est passé. Oui, mais comme l'émission va être enregistrée, c'est passé, en fait. Voilà. Donc, et je pense qu'on va, pendant toute l'année, en parler sur Radio Courtoisie. Et ça sera un vrai plaisir de parler de ce grand écrivain qui est Pierre Gris Paris. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis OK. Et puis, dans 4 semaines, pour une rentrée toujours sur les chroniques de la vieille Europe.
Some things in life are bad.
Pierre Gris Paris, parfois vous avez quand même une conception élitiste de la vie.
Alors absolument. Oui, oui.
Vous êtes homme de droite, réactionnaire.
Je suis réactionnaire.
Fasciste.
Plus fasciste, si vous voulez, que réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, dans le fascisme, quelque chose de positif qui prend acte de l'évolution du monde moderne. Le fascisme, au fond, c'est une. Le fascisme est une défense contre le communisme. Un monsieur comme Mussolini c'est le monsieur qui s'est dit un jour, les démocraties partent perdantes. Et si nous voulons lutter contre l'abrutissement stalinien, n'est-ce pas, on disait bolchevique à l'époque, eh bien il faut emprunter au communisme une partie de ses armes. La question étant de savoir jusqu'où, n'est-ce pas, parce que quand on emprunte à l'ennemi trop de ses armes, on devient l'ennemi, et à ce moment-là, c'est plus la peine de lutter contre, n'est-ce pas, on s'identifie à lui. C'est le grand danger, bien sûr. Mais au fond, il y a dans cette démarche quelque chose de réaliste et de sain. Je ne peux vraiment pas m'associer à l'antifascisme qui sévit actuellement et qui est tout simplement, il me semble, suicidaire.
Mais vous n'allez pas quand même me dire, Pierre Gripari, que Hitler était un personnage...
positif, non, ouais. Non, bien sûr. Et sur le plan social, il était très en avance, même sur l'URSS à l'époque. Hein.
Il s'est trompé après.
Non, il ne s'est pas trompé après. Il s'est trompé même plus encore avant qu'après. Pour moi, l'erreur de Hitler, c'est d'avoir accepté sans contrôle l'image de marque que les Juifs donnent d'eux-mêmes. Il a repris les idées de la Torah. Or, c'est très tentant, quand on lit la Bible, de reprendre ces idées-là et de les retourner contre les gens qui les ont lancées. C'est évidemment la réaction facile, la première qui vous vient à l'idée. Mais évidemment, il ne faut pas le faire. Nous savons maintenant où ça conduit.
Mais quoi. Vous êtes contre tout, vous êtes même antisémite.
Je suis anti-judaïsant parce que...
Mais pourtant, vous savez ce qui s'est passé.
Oui,
vous pouvez accepter ce qui s'est passé pendant la guerre.
Je ne peux pas accepter, mais je ne peux pas accepter la Bible non plus. Vous savez, Mein Kampf est un livre... un peu étroit, pas toujours bête d'ailleurs, c'est un livre un peu étroit, nationaliste à l'ancienne mode, au fond c'est son principal défaut, c'est vraiment l'Allemagne seule, n'est-ce pas? Mais en réalité, Mein Kampf ne contient pas l'apologie du génocide, c'est la loi juive qui la contient. Alors ça, il faut quand même que chacun prenne conscience de ses responsabilités. Et puis, il n'y a vraiment pas d'innocent dans cette histoire-là.
Quoi. Mais Pierre Gripari, avec tout ce que vous dites, comment voulez-vous avoir un public? Comment voulez-vous avoir des amis?
Mais si...
Vous avez des amis juifs?
Non. Parce que
mais déjà, vous êtes dans votre chapelle et tout seul.
Mais non, pourquoi?
C'est de l'intolérance totale.
Des amis juifs, j'en aurais, j'en suis sûr. Ouais. Parce qu'il doit bien s'en trouver dans le tas, qui sont conscients. J'ai pas eu de chance. À chaque fois que j'ai eu contact avec des juifs, je me suis trouvé, au bout d'un certain temps, devant un censeur et un colon, au fond. Je me sentais le nègre, le palestinien. Alors, quand j'en avais marre, je laissais tomber. Mais je suis certain, et d'ailleurs j'ai appris que ça existe, qu'il y a tout de même des gens d'origine juive et non raciste. Ça doit se trouver.
Votre père est quoi? Grec?
Grec. Ah oui, je suis tout à fait fils de métèque. Alors, rien que ça me vaccinerait contre le racisme, vu que justement... C'est pour ça d'ailleurs, j'essaye de jouer le jeu dans roman branchu. Je fais de moi le fils d'un juif, parce qu'effectivement, c'est à la fois le garde-fou et la bonne objection, c'est si vous tombiez sous le coup des lois raciales, si vous étiez d'une famille juive. La réponse, je me la donne, j'aurais certainement envoyé bouler la religion de mes parents, qui est vraiment monstrueuse, je maintiens. Moi.
Mais toutes et les religions, pour vous, sont monstrueuses.
Ah oui, mais le judaïsme a quelque chose de particulièrement inquiétant de nos jours.
Aussi, vous l'avez dit
le christianisme aussi, mais pour d'autres raisons. Le judaïsme, c'est le racisme idéologique, ça c'est très grave, et c'est l'apologie du génocide. Le christianisme, c'est la névrose. C'est Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice sanglant son fils unique. Alors après ça, quand on va parler du communisme intrinsèquement pervers, ça me fait rigoler.
Vous savez que c'est très grave tout ce que vous dites, parce que c'est une parole. Oui. Mais une parole peut être le commencement d'un geste.
Oui, oui. Mais
vous appelez d'une certaine manière à la révolte des temps anciens.
Non. Parce que tout ça, un trimballé des choses culturelles qui doivent être gardées. Moi, je suis pour qu'on continue d'imprimer et Mein Kampf et la Bible. Ce sont des textes historiques et ce sont des textes culturels. Pour rien au monde, je ne voudrais ignorer les livres historiques de l'Ancien Testament qui sont vraiment nazis, mais qui sont passionnants, où il y a des personnages étonnants, des situations, il y a tout un...
Pierre Gripari, aujourd'hui, dans quel parti, si vous deviez entrer dans une action politique, dans quel parti seriez-vous à votre aise?
En France, hein? Oui, en France. Je n'en vois vraiment aucun, parce qu'il y a toujours quelque chose qui baille, vous voyez. bon, la gauche, c'est pas possible. Côté stalinien, ça n'est plus possible. La gauche à visage humain, encore moins, parce que quand on a été stalinien, c'est plus possible d'être démocrate. On n'y croit plus. La critique de la démocratie libérale est faite, quoi. Et d'un autre côté, les partis de droite, il y a toujours quelque chose qui me défrise. Soit qu'ils soient chrétiens, soit qu'ils soient nationalistes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas nationaliste. Le nationalisme a fait aussi un mal énorme. Alors, quoi ? Je ne sais pas.
Vous êtes tout seul quelque part.
Je m'inventerais peut-être un parti néo-fasciste à la fois social et européen, mais qui ne serait pas antisémite, justement. Enfin, qui ne serait pas. Entendons-nous, qui serait anti-juif mais pas antisémite. C'est-à-dire que je considère que la culture basque et la culture bretonne, n'est-ce pas, doivent avoir droit de citer dans l'Europe de demain, mais que la culture yiddish également. On est le dernier Nobel attribué à Isaac Singer. J'ai lu les nouvelles de Singer parues chez Lafon. Elles sont étonnantes. Ouais, ouais. C'est du feu de Dieu ce qu'écrit ce type-là. Et jusqu'ici, je ne connaissais que Kafka, mais Kafka écrit en allemand classique.
Je crois que vous êtes surtout mené par votre anticommunisme. Parce que, il y a des phrases, il y a deux phrases. Là, regardez, la première, vous écrivez, en 1900, c'est, je crois, dans Pellegrin de Vampire, hein, je crois. Hein.
Peut-être, oui.
En 1924, mourut à Moscou le plus dangereux sorcier de l'histoire, oui. Qui avait déchaîné sur la Russie et sur le monde le plus effroyable ouragan de force mauvaise que l'humanité ait jamais subi. Celui-là, c'était Lénine.
Oui.
Et puis, il y a l'autre, Staline, pour sauver l'humanité d'un hideux péril, n'hésita pas à se priver lui-même de plus de 40 millions de ses sujets. Alors là, c'est définitif. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Ce
mais
n'est pas totalement faux non plus.
C'est pas totalement faux non plus, mais j'ai écrit des choses aussi violentes contre l'Ancien et le Nouveau Testament, contre ceci, contre ça, contre les femmes, contre tout.
Vous vous enchantez surtout de votre plaisir à raconter et à dire, et vous vous laissez emporter peut-être, et par l'écriture, oui. Et par les mots. Mais c'est peut-être le
je pense tout ça. En réalité, oui. Je pense tout cela. Je le dis d'une façon plus ou moins agressive suivant les cas. Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des choses dont il faut prendre conscience. Cela dit, pour l'écrivain, l'essentiel, c'est quand même de raconter des histoires.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.